Vous êtes sur RTL.
Merci à vous Pascal, rendez-vous demain bien sûr sur l'antenne d'RTL. Nous on parle de l'équilibre difficile à trouver aujourd'hui, surtout en ces temps de télétravail, l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Comment fermer la porte de l'une pour mieux ouvrir celle de l'autre? C'est tout de suite dans En effet pour s'entendre et paf générique.
14h30, 15h30,
En effet pour s'entendre
avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue en ce lundi sur RTL. J'espère que vous avez passé le meilleur week-end possible à l'écoute d'RTL évidemment. Notre semaine s'annonce riche, vous en découvrirez la proposition au fil des jours d'ailleurs sur notre page Facebook. Et avec quoi on ouvre le bal de nos conversations ma bonne dame? Eh bien demandez le programme. L'équilibre vie professionnelle, vie personnelle est une préoccupation importante pour la quasi-totalité des salariés français. 70% d'entre eux ont d'ailleurs le sentiment de manquer de temps et la limite est encore plus ténue avec la popularisation du télétravail. Et vous, justement, comment vous situez-vous? Le travail prend-il trop de place dans votre quotidien? Qu'est-ce qu'un bon équilibre? Comment le trouver, surtout, et parvenir à tout concilier? On en parle aujourd'hui avec nos invités et puis je dirais aussi avec notre coach accrédité, Émilie Devienne. Bonjour Émilie.
Bonjour Flavie, bonjour tout le monde.
Soyez la bienvenue Émilie sur l'antenne d'RTL. Savourons le silence, c'est un livre que vous signez aux éditions Erol. Bon, là, en matière de silence, en ce moment, c'est pas vraiment ça quand même, hein.
Oh, il faut faire le silence en soi pour trouver le bon équilibre. Vous avez vu la récupération.
Trop forte. Bravo à vous. Vous êtes en forme aujourd'hui. À vos côtés, Rémi Houdguiri. Bonjour Rémi. Ça me fait plaisir de vous entendre.
Bonjour Flavie. Bonjour à tout le monde.
Vous êtes sociologue, directeur de Sociovision, spécialisé dans l'étude de nos modes de vie qui ont changé quand même dernièrement. En même temps, depuis plusieurs années, l'envie de préserver sa vie perso s'affirme au sein de la population active. On voit bien qu'on est déjà dans une mouvance aujourd'hui où on veut tout concilier. On ne se laisse plus forcément dévoré par le travail.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une vraie évolution ces dernières années. Il y a encore une décennie, deux décennies, on était prêt à sacrifier un peu de sa vie personnelle pour le travail. Aujourd'hui, il y a une inversion et je pense que la jeune génération n'y est pas pour rien. Elle n'a plus envie de faire les sacrifices de la génération précédente et je pense que c'est quelque chose qui va s'amplifier dans les années qui viennent.
Adèle nous écrit, c'est une question de génération. Les vingtenaires privilégient le bien-être au travail et ne sont plus dans la soumission à la hiérarchie et à l'oubli de soi. Et c'est vrai qu'on note cette tendance qui touche finalement les jeunes, hein, vous l'avez dit, je dirais instaurée presque par les plus jeunes et qui en même temps finit par contaminer tout le monde. Est-ce qu'on s'est trop laissé bouffer par le travail, Rémi Houdguiri?
Oui, je pense qu'il y a eu pendant des années l'idée qu'au fond, en se sacrifiant un petit peu, en donnant un peu de son temps à l'entreprise, on faisait d'une part le bien de l'entreprise elle-même, mais aussi de son propre bien, parce qu'on avait de meilleures perspectives, on pouvait espérer être rétribué sur l'avenir. Et là, depuis quelques années, on sent bien que l'incertitude régnant, le sacrifice qu'on est capable de faire risque de se retourner contre nous, c'est-à-dire qu'on n'y gagnera pas vraiment. Et je pense que la jeune génération qui a été le témoin de ça, elle a vu ses parents, ses tantes, etc., sa famille, vivre ça n'a absolument pas envie, surtout que dans le passé, ce qui se produisait, c'était qu'on faisait des heures sup, on donnait beaucoup de son temps, et puis à la fin, pour certains, on finissait sur le carreau. Donc, hors de question pour la jeune génération. Et vous avez raison, sa vie, on peut dire qu'elle contamine. Alors, j'emploierai peut-être pas le mot.
Non, mais c'est peut-être pas le mot, surtout en ce moment. Mais enfin, bon.
Surtout en ce moment. Non, mais elle imprègne, elle diffuse, elle influence. Voilà.
Vous avez raison.
Elle donne envie, si vous voulez. Parce que, au fond, en fait, il s'est passé, nous, on a étudié ce phénomène. Au début, quand les jeunes sont arrivés avec cet état d'esprit, on a dit, oh, c'est incroyable, cette génération ne veut plus rien faire, c'est tout ça.
Ouais.
Et puis, peu à peu, les anciennes générations se sont rendues compte que finalement, il y avait quelque chose de bon dans ce rééquilibrage de la vie personnelle, de la vie professionnelle. Et donc, il y a effectivement une imprégnation du reste de la population active.
Voilà, ils ne sont pas si mal, ces jeunes, évidemment, on a de cesse de le dire. C'est quoi le risque, Émilie Devienne, à ne pas justement trouver cet équilibre et à laisser, on va clairement se le dire, finalement, les trois quarts du temps, la problématique, c'est quand on laisse la vie professionnelle prendre trop de place. Quel est le risque à terme?
Alors le risque, il est multiple. Le principal, me semble-t-il, c'est celui de passer à côté de sa vie. C'est-à-dire que le risque, bien sûr, il y a les risques de santé qu'on va peut-être évoquer du côté du burn-out, de la dépression, de cette notion maintenant de surcharge mentale. On voit même apparaître la notion de surcharge émotionnelle. Donc tout ça, ce sont des risques, je dirais, plus physiques, voire physiologiques. Et on va aller dans les entreprises regarder ça du côté de la prévention des risques psychosociaux, de la qualité du travail, etc. Mais sur un plan, je dirais, un petit peu moins pratico-pratique et plus spirituel et psychologique, le principal risque, c'est je me retourne et personne n'est là derrière. Hein, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Et je pense que cette question de l'équilibre vie privée, vie professionnelle dépend aussi du moment où l'on se la pose, c'est-à-dire, et de l'âge que l'on a. Si on prend les quinquas, ils vont se la poser de manière très différente s'ils sont vers le milieu de leur vie, qu'ils ne se la sont posée quand ils étaient très jeunes, qui avaient la maison à payer, les enfants à élever, etc., etc. Les jeunes, et monsieur Oudiri nous le disait tout à l'heure, c'est effectivement, les jeunes arrivent déjà d'emblée avec cette question complètement posée en d'autres termes. Donc, quand aujourd'hui nos auditeurs et nos auditrices vont se poser la question, moi, il est où mon équilibre ? La première chose, me semble-t-il, c'est de se dire, tiens, je me pose la question, aujourd'hui, j'en suis où ? De mon âge, de mes réalisations, de mes aspirations ? Est-ce que je veux revenir à l'essentiel ? Et c'est quoi pour moi revenir à l'essentiel ? C'est pour ça que je vous taquinais avec, pour revenir à l'essentiel, il faut faire du silence déjà en soi, mais je le pense sincèrement, pour revisiter nos valeurs, nos croyances, nos envies, et à partir de là, redéfinir son objectif d'équilibre. Parce que l'équilibre de l'un n'est pas celui de l'autre, bien entendu, selon les charges de famille, notre goût dans notre travail, des gens qui adorent leur métier. Prenons nous et vous, l'auteur, Flavie, par ailleurs. Eh bien sûr, on aime notre métier, il nous suit partout. Donc quand vous écrivez, quand vous parlez de votre roman, bien entendu, c'est pas du travail, c'est de la passion. Mais quelqu'un qui a un autre type de travail, qui va être un travail très pénible, très répétitif, il n'a qu'une hâte, c'est que ce soit la quille. Donc son équilibre va être différent. Évidemment. Donc c'est aussi à questionner. Voilà tous les enjeux, c'est de passer à côté.
Alors Karine nous parle du burn-out, l'addiction au travail, je l'ai connue, ça m'a conduit tout droit au burn-out. Depuis, j'ai radicalement changé mon fonctionnement et j'apprends à me préserver, c'est essentiel. On travaille pour vivre et non l'inverse. Et vous parliez de surcharge mentale ou de charge de famille. Dorothée, l'équilibre vie pro-vie perso est encore plus fragile quand on est une maman, beaucoup de pression sur nous. On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, car on ne vit pas les choses de la même façon, que l'on soit salarié ou auto-entrepreneur également. Émilie est home organizer et elle va intervenir sur cette antenne dans un instant. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
On parle donc aujourd'hui de l'équilibre entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Difficile à trouver, d'autant plus que le télétravail est en train de se démocratiser de plus en plus et que les réseaux sociaux et les nouvelles technologies, qui ne sont plus si nouvelles que ça, régissent désormais notre travail. On va y revenir. Pierre nous écrit « Difficile pour les auto-entrepreneurs ou les boss de décrocher complètement du boulot. Seb, qui a créé sa boîte et travaille tout le temps, il y a quelques mois, il a fallu que je trouve des investisseurs au risque de mettre la clé sous la porte. Pendant 5 mois, je n'ai vécu que pour le boulot. Ma compagne a craqué. Elle a fini par me quitter. Je la comprends, mais je ne vois pas comment j'aurais pu faire autrement. » On n'a pas le choix, parfois, effectivement, et dans des situations de crise, hein, Rémi Audguéry, on n'a pas le choix que de se concentrer sur son boulot pour pouvoir, à un moment donné, aussi continuer à maintenir cette vie professionnelle.
Oui, tout à fait. Il y a une sorte d'épée de Damoclès qu'on ressent bien cette année, parce que cette année est une. On est entré vraiment dans l'incertitude. Oui. Qui peut nous dire demain, dans quelques mois, quelle sera la situation ? C'est extrêmement compliqué. Donc nous, ce qu'on voit très bien dans nos enquêtes, c'est cette montée de l'angoisse, en tout cas de l'appréhension. Et effectivement, en tout cas, pour ceux qui ont la chance de travailler, parce qu'il faut pas oublier que en ce moment même, il y a des gens qui sont sur la touche, contraints de rester à côté de leur outil de travail. Et pour ceux qui travaillent, ce qu'on observe, c'est qu'ils ont travaillé, pour certains, plus que d'habitude. Alors, d'une part, parce qu'il y a un nouveau mode d'organisation du travail. C'est vrai que le télétravail a plutôt tendance, tous les témoignages convergent de ce point de vue-là, à augmenter la charge. Mais il y a sans doute aussi la peur de perdre son travail ou d'être fragilisé dans son évolution. Et donc, ça fait qu'on met les douches doubles. On risque de sortir fatigué de cette période.
Si tant est qu'on ne soit pas déjà. Émilie est en ligne avec nous, elle habite près de Narbonne. Bonjour Émilie.
Bonjour, vous êtes à tous.
Donc home organizer, pour ceux qui nous écoutent, rapidement, vous aidez à la gestion de nos espaces intérieurs, c'est ça?
Oui, principalement, et puis aussi tout ce qui est gestion du temps aussi, voilà.
Donc vous avez votre propre entreprise, donc vous êtes concernée justement par cette problématique?
Oui, j'ai monté ma petite entreprise il y a presque 2 ans maintenant, qui s'appelle Portez-vous bien.
D'accord, ça a été difficile ces derniers temps pour vous justement de concilier tout ça?
Oui, alors je suis maman de 3 enfants en plus, donc j'ai la pression de la vie familiale, de la vie professionnelle de chaque côté, et puis voilà.
Alors, même si vous adorez votre métier, puisque c'est vous en plus qui l'avez créé, c'est un métier qui sûrement, j'imagine, c'est une reconversion, puisque vous avez 40 ans aujourd'hui, donc c'est quelque chose que vous avez choisi, vous avez monté votre petite entreprise qui, j'espère, ne connaîtra pas la crise. Émilie, est-ce que vous parvenez quand même à vous aménager des pauses et à gérer votre temps?
J'essaye au maximum. Et puis, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir aussi trouver... Alors, ce n'est pas un équilibre parfait, mais à un certain moment, il faut savoir donner le focus sur son entreprise quand elle en a besoin, pour saisir les opportunités et puis pouvoir mener à bien les projets. Et puis, d'un autre, pouvoir s'alléger, se créer des pauses et puis se retourner sur les moments précieux de la vie. Et ça, c'est ce que j'essaie toujours de ramener mes clients et les familles que j'accompagne vers ces objectifs-là.
Vous avez 3 enfants. Ces 3 enfants ont un papa. Est-ce que ce papa vous soutient, justement, Émilie, lorsque vous devez mettre un coup de fouet dans le travail?
Voilà, c'est ça. C'est la rançon du succès, c'est de pouvoir être épaulé et puis pouvoir discuter et que les personnes qui nous entourent prennent le relais quand il y a un petit coup de boost à donner d'un côté ou de l'autre. Et puis de rendre le plus possible les enfants autonomes là, assez rapidement pour pouvoir, voilà, quand il y a besoin de travailler, et bien, ils s'occupent par eux-mêmes.
C'est quoi le déséquilibre temporaire?
Alors ben justement, c'est ça, c'est de pouvoir à un moment donné, quand on a un petit coup de boost à donner dans une des sphères de notre vie, que ce soit personnelle ou professionnelle, de pouvoir mettre entre parenthèses l'équilibre parfait qu'on aimerait avoir, pour pouvoir aller jusqu'au bout de ses objectifs.
Donc en fait, l'idée c'est de faire montre de souplesse, hein, c'est ça que vous nous dites?
C'est ça, voilà.
Il faut d'un côté comme de l'autre.
Voilà, mais ça doit être temporaire, parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir revenir à quelque chose de plus normal, et puis plus équilibré, donc pouvoir retrouver des horaires un peu plus normaux. Enfin voilà, l'idéal qu'on s'était fixé au départ.
Émilie de Vienne, quand vous écoutez Émilie de Narbonne, justement, est-ce que vous sentez, est-ce que vous souscrivez à cette idée qu'effectivement, tout n'est pas rigide? Je disais tout à l'heure comment on ferme la porte d'une vie pour ouvrir celle de l'autre, et en même temps, elles sont imbriquées parfois, on n'a pas d'autre choix. Donc est-ce que c'est ça aussi, à un moment donné, le secret, c'est-à-dire être capable de se contorsionner, de faire montre de souplesse pour peut-être à un moment donné mener à bien les deux et parfois accepter que l'un prenne le pas sur l'autre sans que ce soit définitif?
Eh bien, complètement, c'est cette notion de flexibilité dont vous parliez, cette idée de s'adapter. Et au cœur de tout ça, me semble-t-il, il y a 2 choses. Il y avait, bon, déjà l'incertitude dont nous avons déjà parlé. Il y a 2 autres choses. D'une part, il y a le sens. Quel est le sens que je mets dans cette action? Quand Émilie de Narbonne disait, voilà, selon la période, ben oui, il peut y avoir un moment, vous savez que j'ai longtemps vécu au Québec, on vous dirait où il faut mettre la claque sur tel sujet plutôt que tel autre, tel dossier plutôt que tel autre. Ben, bien sûr qu'on va le faire, et le système autour de nous, la famille ou les collaborateurs ou les vont le comprendre parce que ça fait sens. Et puis on va retrouver un équilibre après. Mais on va le vivre comme ça, comme un coup de rush, comme un coup de folie, mais ça fait sens par rapport à notre activité professionnelle. Ça, c'est le premier mot. Le deuxième mot qui me semble important, c'est la notion de potentiel. Tout cela sera vivable tant que l'on sait qu'il y a un potentiel dans cette situation de déséquilibre jusqu'à revenir à un nouvel équilibre. Voilà. La seule chose, c'est l'idée du revenir à l'équilibre. J'ai rajouté nouvel équilibre. Parce qu'il me semble que si l'on veut trop s'accrocher à « j'avais décidé que c'était comme ça, c'est comme ça et j'y reviens mordicus », là, on risque de se casser. Il faut vraiment, à mon sens, rester dans cette notion de flexibilité, d'accueillir l'émergence, d'accueillir la nouveauté et de redéfinir ce qui va être l'équilibre après qu'on soit passé dans ce coup de rush, si vous voulez.
Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Émilie de Narbonne, d'avoir témoigné sur cette antenne. Plein de bonnes choses pour vous. Votre entreprise, vous pouvez nous rappeler son nom?
Portez-vous bien.
Portez-vous bien. Eh bien, c'est exactement ce que je vous dis à vous et à vos proches.
Beaucoup.
Et je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve dans un instant sur RTL avec Marie-Michel.
Sa vie flamand sur RTL. 14h30, 15h30,
on est fait pour s'entendre
avec Flavie Flamand sur RTL.
Pour moi, le plus important, c'est ma famille. Ce sont mes enfants, nous écrit Andrea. J'aime mon travail, je le fais bien, mais avant l'heure, c'est pas l'heure. Et après l'heure, c'est plus l'heure. Marc a longtemps privilégié le travail. Aujourd'hui, j'ai davantage envie de m'investir dans ma vie personnelle et de profiter de ce que j'aime. Cet équilibre difficile à trouver. On en parle aujourd'hui avec nos invités jusqu'à 15h30, que sont Émilie de Vienne, qui est coach accrédité, et Rémi Oudguiri, qui est sociologue, directeur de Sociovision. Alors, c'est intéressant parce que effectivement, vous le disiez, Émilie de Vienne, les priorités ne sont pas les mêmes, hein, que l'on ait 20 ans, 30 ans, 40 ou encore 50. Et il faut lutter aussi certainement contre aujourd'hui l'invasion des technologies. Yvan nous écrit, j'ai un téléphone pro, je l'éteins dès que je pars du boulot. S'il y a une urgence, mon manager m'appellera sur mon téléphone perso. Nous ne sommes pas des machines. Il est essentiel de couper pour être productif et bien dans son job. Ça, c'est une réalité, Émilie de Vienne aussi, dont il faut avoir conscience.
Alors, il faut en avoir conscience et je la vis quasiment tous les jours avec des clients en coaching. Absolument, une des premières choses que les gens vont nous dire, c'est qu'est-ce que je fais de ce supposé droit à la déconnexion qui est tout beau sur le papier mais qui dans la réalité donne autre chose. C'est toute cette idée, alors il y a un courant qui monte de l'idée de la télé-disponibilité. Mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire à un moment donné, ça peut être pas loin de la tyrannie. En plus, en France, on est souvent sur un management à l'ancienne où si on ne voit pas le collaborateur, ben, il travaille pas, c'est bien connu. Voilà. Et donc, il y a aussi ce côté flicage qui peut être perçu de plus en plus avec en plus cette notion maintenant de télétravail. Et donc, ce droit à la déconnexion devient presque une forme de culpabilité. Moi, je l'entends, hein, de certains managers ou dirigeants qui me disent oui, je suis épuisée, etc. Mais si ça sonne à 21h, 21h30, je veux répondre. Ou qui vont regarder une dernière fois leur courriel à minuit avant d'aller dormir. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire, sur le papier, on nous a posé avec la loi M. Khomri cette grande idée du droit à la déconnexion. Oui. Mais dans la vraie vie, il y a la culture métier, il y a la culture de l'entreprise qui font que c'est pas si bien accepté pour certains, alors que pour d'autres, au contraire, c'est totalement une posture assumée et qui va au contraire faire partie de leur force. Donc c'est un sujet très compliqué, ces nouvelles technologies qui, comme vous le disiez, ne sont pas finalement si nouvelles.
On y reviendra dans un instant avec vous, Rémi Oudguiri, mais pour l'heure, on accueille Marie-Michel sur cette antenne, elle habite à Orléans. Bonjour Marie-Michel.
Bonjour à tous.
Soyez la bienvenue, vous êtes coach en ligne, vous donnez des conseils marketing justement pour les entrepreneurs. Vous vivez avec votre boulot, puisque vous travaillez de chez vous, 24-24, 7 jours sur 7.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que mon travail il est chez moi et je suis à mon travail tout le temps. Bon.
Mais alors vous faites la part des choses justement, vous, entre les appels, les mails, les rendez-vous, comment ça se passe ?
Eh ben, c'est-à-dire que ça va surtout se jouer au niveau de mon planning et de ce que moi je décide en fait. Je me fais un planning et je décide qu'à partir de telle heure, ça suffit. Je réponds plus aux messages, je réponds plus aux emails. Je suis pas médecin, je sauve pas des vies, donc rien n'est assez urgent pour empiéter sur mon temps personnel.
Alors ça, j'adore. Non mais j'adore cette idée, Marie-Michel. C'est vous qui l'avez trouvée toute seule ? Pardon, mais
je sais pas, mais ça m'aide beaucoup.
Bah oui, non mais ça,
mais
je
vous savez, Chami, oui. Par rapport à ça, si je peux me permettre d'intervenir, Émilie, ce qui est très intéressant entre confrères, c'est que il y a cette partie. Et on en parlait tout à l'heure, cette notion de prise de risque et d'incertitude. C'est-à-dire que pour vous, Marie-Michel, et je parle sous votre contrôle, mais voilà, les choses sont claires et je suis prête à assumer le fait de ne pas avoir été disponible ou qu'un client dise. Écoutez, vous avez bien de la chance, moi je veux pouvoir vous joindre à telle heure. Il y a des professionnels et surtout beaucoup de travailleurs indépendants, pas seulement dans notre univers du coaching, hein, qui ont peur de déplaire, qui ont peur de ne pas être serviable et corvéable à merci et qui de ce fait vont se brûler les ailes. Il y a ça aussi qui joue et donc nous avons parlé d'incertitude, nous avons parlé du potentiel des situations, nous avons parlé du sens. Je pense qu'il y a aussi cette notion de peur ou de capacité à prendre des risques qui rentre dans le calcul possible de cet équilibre vie personnelle et vie professionnelle?
Alors, deux messages que je vais vous lire tout de suite, et ensuite on se retrouvera avec donc Marie-Michel, vous, Émilie de Vienne et Rémi Houdguéry pour poursuivre. Mathias nous écrit « Le travail prend une grande place dans ma vie, il empiète sur le perso, j'ai quelques soucis à mettre des limites, je ne voudrais surtout pas que l'on pense désinvesti. » Et Elodie nous dit que la réussite professionnelle est très exigeante pour elle. « Je suis perfectionniste, ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à décrocher en dehors des heures de travail aux grandes dames de mon mari et de mon petit garçon. » Pour l'heure, place à l'information. On va se retrouver juste après sur l'antenne d'RTL pour revenir justement sur cette exigence qu'on a parfois vis-à-vis de nous-mêmes. Marie-Michel nous dit « Moi, mon métier, c'est d'être coach. Je ne suis pas médecin, je ne sauve pas des vies. Donc, à un moment donné, je pense à moi. » Certains, justement, ont peur du regard qu'ils peuvent porter sur eux-mêmes ou que l'on peut porter sur leur travail en mettant des limites, justement, à leur vie professionnelle. Ce sera dans un instant pour leur place à l'info sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Rémi Houdguéry, vous êtes sociologue. Vous êtes notre invité jusqu'à 15h30 avec Émilie de Vienne. Marie-Michel nous écoute et on va reprendre son témoignage dans un instant. Est-ce qu'effectivement certains se mettent la pression? Mathias nous dit « J'ai peur que l'on me pense désinvesti si je ne suis pas disponible tout le temps et corvéable à merci. »
Oui, alors la situation s'est un peu améliorée ces dernières années parce que effectivement, avec le droit à la déconnexion, avec un certain nombre d'interventions de personnalités publiques, il y a quand même un peu plus d'acceptation du fait qu'il y a des limites entre la vie privée et la vie professionnelle. Néanmoins, vous avez raison, il y a des métiers, il y a des fonctions où il est absolument impossible de décrocher. Il en va de la vitalité de l'activité, de la survie même parfois de l'activité. Et c'est vrai que dans certaines fonctions commerciales, dans certaines fonctions de développement, etc., on est obligé d'être au garde-à-vous en quelque sorte. Et ça peut, et on le voit très bien nous dans les chiffres qu'on mesure, on a de plus en plus de gens qui se sentent fatigués, stressés, d'autant que se rajoute, alors dans la période très particulière qu'on traverse avec le télétravail, pour ceux qui le pratiquent, oui, l'effacement des frontières entre le privé et le pro, et le privé est sans cesse rattrapé par le pro, et le pro est sans cesse rattrapé par le privé, et les femmes sont encore plus concernées souvent, c'est ce qu'on voit dans nos enquêtes, par le phénomène.
Alors Aurore nous écrit « Depuis le premier confinement, c'est simple, je n'ai plus de vie perso, le télétravail c'est le ver dans la pomme, on doit toujours être à dispo, tôt le matin, tard le soir, je n'en peux plus. Et Luc, en télétravail, comme on ne se voit pas, les limites sont difficiles à établir, les collègues et les managers appellent sans se soucier de savoir si on est dispo ou pas, je bosse bien plus quand je suis chez moi, et c'est nos limites. » Marie-Michel, est-ce que vous avez défini un espace de travail chez vous qui vous permet à un moment donné physiquement de fermer la porte?
Et c'était exactement ça, tout à fait. J'ai la chance d'avoir un appartement avec une chambre en plus qui fait que j'en ai fait mon bureau. D'ailleurs, mon mari l'occupe pendant le télétravail. Et ça nous permet vraiment de cloisonner la vie personnelle, la vie professionnelle. Quand on rentre dans le bureau, c'est comme si on allait au travail le matin. Tout ce qui concerne le pro est dans le bureau. Et quand on ressort, et ben on est chez nous. C'est la vie personnelle qui reprend.
Alors ça, quand on peut le faire, Émilie de Vienne, c'est l'une des solutions aussi. C'est-à-dire que finalement, se détacher d'un endroit physique, c'est une façon aussi de rentrer dans une nouvelle vie.
Alors absolument, et effectivement c'est une chance, et je l'ai moi-même expérimenté, parce que fut une époque où je n'avais qu'un studio grand, certes, mais studio quand même, donc j'avais essayé de définir à coup de paravent, etc., un espace, mais la tentation est forte de regarder une émission et l'air de rien, de clapoter tranquillement, ta ta ta. Puis là, le temps faisant, j'ai effectivement opté pour la solution qu'évoque aussi Marie-Michel.
Vous avez acheté un château.
Voilà, alors exactement comme mon héroïne, vous le savez, qui a hérité d'un château, alors moi j'en ai ni hérité ni acheté, mais ça ne saurait tarder. Non, mais en attendant, j'ai quand même trouvé mon petit bout d'appartement dans lequel, effectivement, il y a une pièce qui est dédiée à ça. Et effectivement, comme j'ai quand même la marotte d'avoir envie de regarder, je ferme la porte. Comme ça, psychologiquement, j'ai vraiment le sentiment que... Voilà. Et il y a aussi, je crois, quelque chose d'important sur l'équilibre, c'est de se trouver des routines. Autre chose, c'est-à-dire, par exemple, moi, je ferme et je me dis, bon, là, je vais aller marcher, même si c'est dans le quartier, avec ou sans confinement, j'entends, histoire de savoir... Bon, voilà, une autre solution, ça peut être de dire, ben, voilà, moi, je me fais une heure de pilates ou 20 minutes de yoga, j'en sais rien, mais il faut trouver... Voilà, des routines précises pour nous aussi rythmer notre temps. Ça, c'est important. Et aussi, me semble-t-il, important de ne pas culpabiliser si notre rythme est un peu différent. Par exemple, on peut se dire, bah, tiens, moi je suis vraiment du matin, j'ai la chance de travailler de chez moi. Eh bien oui, à 7h30, je suis derrière mon ordi, mais pas pour envoyer des courriels, pour préparer des documents, lire des choses, etc. Mais par contre, si je décide que, je sais pas moi, à 16h, j'ai envie d'aller courir ou j'ai envie de faire, eh bien je peux le faire. Moi j'étais quand même au boulot ce matin depuis 7h30, par exemple, vous voyez. Donc ne pas culpabiliser d'être à l'écoute de son corps, de son énergie, tant que notre travail est fait, qu'on est au rendez-vous et qu'on revient à la question du sens, le sens qu'on a donné à cet équilibre tient la route.
Vous avez parfaitement raison. Rémi nous écrit « Mon père s'est beaucoup investi professionnellement et nous répétait souvent qu'il profiterait de la vie à la retraite. Et c'était fait pour ça. Il est décédé il y a 15 ans d'une crise cardiaque. Quelques mois avant son départ à la retraite, ça me brise encore le cœur. Ne passons pas à côté de l'essentiel. »
Oui.
Visiblement, nombreux sont ceux qui l'ont compris. En tout cas, Marie-Michel, vous nous avez expliqué quelque chose d'important. C'est qu'il faut quelque part aussi s'organiser. Hein, c'est ça. C'est s'organiser. C'est quelque chose. C'est appréhender finalement et savoir appréhender les limites à ne pas forcément franchir. On va se retrouver dans un instant avec Estelle. Elle a carrément trouvé des astuces et elle va nous les livrer dans un instant. Marie-Michel, je vous embrasse. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour votre boulot. Et puis nous, on se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL.
Flavie Flamand sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
On est ensemble jusqu'à 15h30 et on essaye de vous donner des trucs et astuces hein, pour justement concilier vie pro et vie perso. On a le sentiment, Rémi Oudguéry, qu'un travail passionnant, c'est quand même quelque chose qui nous guide et nous permet bien souvent aussi, parfois alors de ne pas réussir à concilier et parfois de mieux concilier. Émilie, que l'on a entendu en début d'émission, comme Marie-Michel, sont des jeunes femmes qui sont passionnées par leur métier. Elles l'ont choisi, elles ont entrepris finalement, elles ont emprunté un nouveau chemin professionnel. Ça devient un objectif important aussi pour les travailleurs aujourd'hui.
Oui, je pense. Alors moi, ce qui m'a frappé dans la dernière enquête qu'on a faite, c'est que quand on zoome sur les moins de 25 ans aujourd'hui, les jeunes de 15 à 25 ans, qu'on leur demande qu'est-ce que c'est qui est important dans votre vie, qu'est-ce qui fera que vous pourrez dire que votre vie a été réussie, la première chose qui sort, c'est avoir eu un travail passionnant. Ça vient avant d'avoir des enfants ou d'être en couple ou de fonder une famille. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même qu'aujourd'hui, plus que jamais, le travail reste un facteur d'épanouissement personnel central dans la vie des Français et des gens en général, des jeunes, la jeune génération. Et donc, il y a vraiment un... Quand on dit qu'il y a cette pression sur le travail, quand on dit qu'il y a ce stress qui monte, ce questionnement sur le sens, c'est tout à fait vrai. Mais c'est d'autant plus vrai que derrière, c'est pas tellement une vie oisive que les gens à laquelle les gens aspirent. Les gens aspirent à une vie qui leur donne satisfaction, qui leur donne le sens, comme on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est ça qui est attendu. Et là, dans la période qu'on traverse, notamment ceux qui ont été mis à l'arrêt pendant un certain temps, ils sont sortis du premier confinement avec l'idée qu'il allait falloir changer certaines priorités. Ils se sont aperçus soit qu'ils travaillaient trop, soit qu'ils avaient laissé passer, tout à l'heure, on disait on risque de rater sa vie, ils avaient laissé passer des activités qu'ils faisaient avant. Ils ont pris conscience. Je pense que la période qu'on vit actuellement est intéressante parce qu'il y a un énorme questionnement dans la population sur, au fond, qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour moi. Et je pense que ça, c'est plutôt positif pour l'avenir. Alors, il y a des nuages noirs qui s'amoncellent sur le front de l'emploi, mais il y a aussi beaucoup de gens qui prennent conscience qu'il va falloir faire autre chose de leur vie que simplement se soumettre bêtement à la dictature du travail.
Et est-ce que quelque part aussi, ça n'est pas un risque de passer sa vie à être passionné par son boulot et à travailler jusqu'à pas d'heure?
Oui, enfin, le risque est toujours, je pense, c'est le déséquilibre. Hein, je pense que le thème de votre émission, c'est exactement ça. C'est où on met le curseur. Je veux dire, une vie accomplie, c'est une vie, évidemment, les jeunes ont dit c'est un travail passionnant, mais après ils ont dit avoir des enfants, donc, et après ils ont dit être en couple. Donc c'est arriver à faire de l'ensemble de ces objectifs quelque chose d'équilibré.
On accueille Estelle, si vous le voulez bien, Émilie de Vienne, vous réagirez à son témoignage. Bonjour Estelle.
Bonjour.
Soyez la bienvenue, Estelle.
Merci.
Alors, il y a un an, eh ben, vous avez fait un constat.
Oui, exactement. Lequel? Alors, j'ai constaté que, en fait, à travers mes expériences, on me consultait beaucoup sur différentes choses, sur des thématiques de maman, par exemple, comment déterminer le budget de frais de garde, de thématiques communes à plusieurs mamans, on va dire. Et au travers aussi le regard de beaucoup de mamans de familles nombreuses ou pas, j'ai fait le constat qu'il y avait on avait du mal en fait à faire l'équilibre, à maintenir un équilibre entre la vie personnelle et vie professionnelle.
Vous avez créé un blog ?
Alors, suite à ça, j'ai créé un blog et à travers, j'ai fait un article, deux articles, et au-delà de ça, il y a une communauté qui s'est ajoutée au fur et à mesure, et je me suis rendu compte que c'était vraiment un vrai problème de société et qu'on se retrouvait tous confrontés à cette situation.
Vous-même, vous avez ajusté votre vie ?
Alors, moi, j'ai ajusté ma vie en fonction de ça et je me suis fixé des challenges qui me permettaient, dans le respect de ma vie personnelle, ma vie professionnelle, en fait, le fait de dire dans un blog, faut qu'on trouve un meilleur équilibre entre notre vie personnelle et vie professionnelle, c'est un peu aussi être forcé de le faire, en fait, en quelque sorte.
Oui, c'est s'engager à le faire.
C'est s'engager.
Oui, absolument. Voilà. Oui, c'est ça, Émilie Devienne, de temps en temps, il faut se mettre un peu au pied du mur, c'est-à-dire que il y a la théorie, mais il y a la pratique, on y reviendra juste après avec Estelle, mais c'est bien, à un moment donné, de faire un constat, de se poser, Émilie, et de se dire, bon, ok, maintenant j'y vais, là, ça suffit.
Alors bien sûr, il faut s'y mettre, il faut se poser. C'est pour ça qu'on parlait de faire une pause de calme en soi et autour de soi, de se donner un temps, ce qui est déjà un luxe en soi, mais qui nous met déjà en mouvement, bizarrement, de ne rien faire et de réfléchir. Rien faire au sens concret, ça nous met déjà en mouvement. Mais il y a peut-être aussi une dimension, et comme Estelle parlait de son rôle de maman et d'autres mamans, il y a aussi autre chose dans cette fameuse question d'équilibre vie pro-vie perso. Là, pour le moment, on a beaucoup parlé de la partie pro qu'envahit le perso. Mais il y a aussi le perso qui envahit le pro. Les chers trésors qui imaginent que, comme nous sommes à la maison, on est disponible à tout moment pour être interrompu, pour ci ou pour ça. Il y a les chers trésors qui estiment aussi que la tarte aux pommes maison, c'est normal, on a que ça à faire vu qu'on est à la maison, etc. Je ne parle même pas de la lessive ou des autres tâches ménagères. Donc, il faut aussi faire attention à l'envahissement, entre guillemets, du perso, dans les heures pro, où, je cite aussi, la meilleure copine qui, elle, est à la retraite et qui vous appelle puisque vous êtes chez vous. Ok, vous pouvez faire une petite pause, etc. Ou les belles-mères aussi. J'ai eu des témoignages comme de belles-mères. J'ai eu la chance que la mienne ne me le fasse jamais. Je reconnais. Mais il y a aussi le plan belle-mère, puisque Pipette travaille à la maison. Cassandienne, je peux l'appeler. Donc, si vous voulez, ça marche vraiment dans les deux sens, cette porosité des deux univers.
Dans un instant, Estelle va nous livrer ses trucs, parce qu'ils sont vraiment pas mal. Et ça fait du bien. À tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. 14h30, 15h30,
on est fait pour s'entendre
avec Flavie Flamand sur RTL.
Estelle, vous êtes responsable marketing et diffusion pour un éditeur de presse. Vous avez créé un blog et sur ce blog, vous livrez des conseils. J'ai pris mon stylo, j'ai pris ma feuille de papier, on vous écoute. Vous êtes sur RTL, tout le monde vous écoute. Hashtag pression, Estelle. Non, c'était intéressant ce que nous disait Émilie Devienne, parce qu'il y a effectivement l'invasion du pro dans la vie perso et l'inverse est vrai aussi. Alors, comment est-ce que vous faites, vous, pour gérer votre vie personnelle qui vous permet aussi d'être disponible pour votre vie professionnelle?
Alors, je fais des choses... pas compliqué, mais il faut le faire. Donc je fais des listes je fais des listes surtout sur ma vie personnelle, sur ma vie professionnelle, et par exemple dans ma liste ça peut être à mon heure de déjeuner d'aller chercher des stylos pour mon fils, les listes exactement. Et en fait, le fait de faire des listes, finalement, quand vous barrez après votre sujet, vous avez l'impression d'avoir réalisé quelque chose, d'avoir avancé.
Donc, déjà
psychologiquement, c'est un plus. Et en fait, ensuite, je vais dire, je fais du sport à côté. J'essaye de avec les enfants, ça peut être on cherche beaucoup d'excuses pour pas faire de sport, mais ça peut être marcher, ça peut être, on n'est pas obligé de faire des grandes séances.
Ouais.
Mais j'essaye de décharger. Ensuite,
vous faites cooking un peu, non? Vous définissez les menus à la maison à l'avance.
Oui,
c'est bien.
Après, je m'y tiens pas totalement. Je l'avoue. Hein, j'essaye. Ça dure une semaine sur deux, on va dire.
Ouais, mais c'est
J'essaye. Mais il y a des mamans qui sont très très bonnes pour ça. Je leur laisse là-dessus. Moi, je suis pas super bonne là-dessus. Mais définir ses menus à l'avance, c'est quand même la clé, et c'est la clé aussi au niveau financier. Donc c'est pas mal, les deux cumulés, c'est vraiment pas mal, c'est une chose à faire.
Et que ça évite le gaspillage.
Exactement. Donc c'est la meilleure chose à faire. Ensuite, moi j'ai la chance d'avoir un conjoint qui m'aide. Donc ça, c'est pas forcément valable pour toutes.
Mais c'est important. On a fait une émission la semaine dernière là-dessus et c'est quand même super, super important. On parlait du maternage parfois dans les couples et des maris qui ne faisaient pas grand-chose. En fait, selon vous, il faut répartir les tâches du foyer aussi. Hein.
Exactement. C'est impossible. Je suis responsable marketing dans ma vie. Donc mon mari, lui, il est gérant. C'est vrai que c'est très stressant pour le coup parce qu'il a des impératifs et j'ai des impératifs. Si tous les deux, on ne fait pas ce choix-là, dans ces cas-là, il faut revoir ma position. Voilà, je peux pas, ou la sienne. Donc soit il reste avec les enfants, soit je reste avec les enfants. Mais c'est forcément des concessions.
D'accord. Et dernière idée, moi j'aime beaucoup, c'est le fait que les enfants participent aussi à la maison.
Oui, alors chacun a son rôle. On va dire que c'est même mon mari qui a été meilleur sur le coup par rapport à moi-même.
Donc, c'est super bien. Donc les enfants participent, c'est-à-dire
les enfants participent, c'est-à-dire que mon grand qui a 11 ans, il vide le lave-vaisselle. Ah ouais. Ma petite, elle va aider à débarrasser. Ah ouais. Chacun doit ranger sa chambre avant d'avoir un temps pour jouer, par exemple.
Apporter le petit déj au lit des parents.
Ça, non, j'ai pas réussi. Celui qui a réussi, je suis preneuse.
Esclavagisme. En fait, ce que vous nous expliquez, Estelle, et je vais demander à Émilie de Vienne et Rémi Hautguéry de réagir rapidement, mais c'est que ce sont des aventures familiales aussi, Émilie de Vienne, quand on se retrouve dans ce genre confronté à ce genre de problématiques. C'est qu'à un moment donné, tout le monde doit mettre la main à la pâte, quoi. C'est pas compliqué. C'est une équipe.
Alors, c'est pas compliqué, je dirais peut-être pas.
Non, mais sur le papier, c'est pas compliqué. Oui, mais ça devrait être comme ça aussi.
Mais absolument, mais vous savez, j'ai une amie qui a une super mug sur son bureau et elle boit ses cafés et ses thés dedans où il y a écrit « Dans la prochaine vie, je vivrai en théorie
».
Et voilà, donc c'est bien vrai, mais c'est pas si simple. Et c'est pour ça qu'au début de notre émission, je vous parlais d'une vision très systémique de votre sujet. Tout est à prendre en compte depuis l'âge de toutes les personnes concernées, jusqu'aux objectifs personnels, financiers, d'épanouissement. Tout ça, c'est à prendre en compte et un équilibre est très composite. Il n'y a pas l'équilibre avec le plateau vie pro, le plateau vie perso. Il y a le plateau vie perso qui lui-même va déjà demander un premier équilibre entre mari, pas mari, voyage, pas voyage, et pour qui. Par exemple, j'ai des clientes qui, pas en cette période, bien sûr, mais qui voyagent énormément pour leur travail. Ben, s'il n'y a pas la logistique qui suit derrière, c'est vite compliqué. C'est pas nécessairement seulement monsieur qui va être toujours dans un avion. Donc, il y a le premier équilibre à trouver à l'intérieur du perso, il y a le premier équilibre à trouver au niveau du pro, et là on va pouvoir faire rencontrer l'équilibre pro et perso. Donc c'est vraiment très systémique.
Et alors Rémi Hautguéry, le mot de la fin avec vous.
Moi, ce que j'ai bien aimé dans le dernier exemple, c'est effectivement que on prêche par l'exemple. En fait, chacun joue sa partie, chacun a son rôle. Bon, alors, c'est peut-être un peu idéal, mais chacun a l'air de se respecter. Et je pense que c'est un exemple qui peut être inspirant pour les entreprises, parce que souvent, ce qui fait défaut dans les entreprises, c'est que le management, la direction ne donne pas vraiment l'exemple. C'est la direction, souvent, qui passe beaucoup de temps, qui fait des heures sup, etc. Alors, avec les meilleures intentions du monde. Mais en faisant ça, elle exerce une pression sur le reste des salariés qui se sont obligés d'une certaine manière de suivre au moins partiellement. Or si les directions mettaient en pratique cette cloisonnement, parce que je pense que le mot de la fin pour l'émission, c'est aussi le cloisonnement. Il faut remettre des cloisons entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour que l'une et l'autre puissent continuer à s'accomplir avec un certain plaisir.
Merci à vous. Merci beaucoup Estelle pour vos conseils. Votre blog s'appelle comment, Estelle ?
Journal d'une maman bosseuse.
Très bien. Eh bien voilà, merci beaucoup Estelle. Merci Émilie de Vienne. Savourons le silence. C'est votre ouvrage aux éditions Erol. Et Rémi Hautguéry, merci à vous. Je rappelle donc Sociovision, spécialisée dans l'étude des modes de vie dont vous êtes le directeur. Merci à vous tous pour cette heure passée ensemble. Prenez bien soin de vous. Je vous le disais, la semaine s'annonce riche. Je me réjouis de la passer en votre compagnie. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À demain sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
RTL Matin, les pépites d'Anthony Martin.
Tous les jours à 7h25 dans RTL Matin avec Yves Calvi, je vous propose une pépite musicale sortie de ma discothèque. Alain Souchon chante Dalida, Vanessa Paradis France Gall, Johnny Alain Bachung. Chaque matin, une rareté, un pas de côté, parfois une nouveauté. On se retrouve chaque matin à 7h25 pour notre balade au cœur du patrimoine musical et bien sûr à tout moment en replay sur la nouvelle appli RTL.